Kiosque Magazine.
Bon vendredi matin, nous sommes le 21 novembre et vous êtes à Kiosque Magazine sous le thème de la culture et des loisirs. Je m'appelle Miguel Doucet.
Et Jennifer Vignery, bonjour à tous.
Alors, nous sommes tous les deux ici pour vous parler de ce qui se passe dans le monde de la culture et des loisirs. Alors, Virginie, tu me parles de... Excuse-moi, Jennifer.
C'est mon nom de famille qui prête à confusion,
tout à
je
fait.
Suis habituée.
Jennifer, alors, tu me parles de quoi aujourd'hui?
Dans un premier temps, je vais vous parler de Marie-Jo Thériault et de son nouvel album « Trois petits tours d'automne » au Théâtre Outremont. Puis j'aborderai la pièce intitulée « Faire l'amour » qui est présentée à l'Espace Libre du 19 au 29 novembre avec l'auteur et comédienne Anne-Marie Olivier. Nous continuerons de parler théâtre avec la pièce « Tribu » de l'anglaise Nina Ren qui présente l'une des plus belles surprises de la saison théâtrale jusqu'ici au Théâtre L'Alicante jusqu'au 29 novembre. Et enfin, nous terminerons avec l'art et la science qui s'associent pour nous offrir deux nouvelles productions du Planétarium « Vertige » et Tempo.
Ouais, de mon côté, il y a le dernier album de Fred Pellerin. Aussi, je parlerai de théâtre avec D'Artagnan et les Trois Mousquetaires au théâtre Denise Pelletier. C'est les sommets du cinéma d'animation à Québec et par la suite à Montréal. Et Manon Brunet nous propose une expérience gospel à Trois-Rivières.
Et on démarre tout de suite donc avec Marie-Jo Thériault et son nouvel album, un article qui s'appelle « Douce effronterie » paru dans le métro du 17 novembre. 30 ans de carrière, 3 musiciens, 3 soirs et une douce effronterie, Marie-Jo Thériault propose 3 petits tours d'automne au Théâtre d'Outremont. C'est le comédien Raymond Cloutier, également directeur général et artistique du Théâtre Outremont, celui-là même qu'il avait jadis expulsé du Conservatoire d'art dramatique, qui a offert à Marie-Jo Thériault d'occuper les lieux pendant 3 soirs à l'automne 2013. Comme la musicienne se retrouvait dans un espace flottant entre deux repères et que pour mille et une raisons, elle n'était pas encore prête à présenter un spectacle portant sur Chasing Lady, son précédent album en forme de quête identitaire, elle a accepté l'invitation, se disant que ça s'inscrivait dans les projets cool auxquels elle participait depuis un moment, comme sa prestation à Petite Vallée et à Pop Montréal. Il lui restait à trouver des musiciens et à créer un événement. Mais Gypsy un jour, Gypsy toujours, elle envisageait un espace créatif non formaté. Elle a donc opté pour 3 spectacles distincts et des orchestrations différentes en fonction des disponibilités de ses amis musiciens. Considérant qu'en plus de leur emploi du temps chargé, ses amis n'étaient pas particulièrement portés sur les répétitions, il a été convenu que celle-ci durerait environ 3 heures et aurait lieu, bonjour l'urgence, le jour du spectacle. Après les spectacles proposés avec Bernard Falaise à la guitare, Joe Grass également à la guitare, pédale steel et mandoline, Sarah Paget à la harpe et José Zubeau au violon, elle s'est rendue à Moncton pour écouter les bandes enregistrées et sonorisées par Olivier Bloch l'aîné. Je me suis dit, allons au bout de ce projet-là. J'ai écouté tous les morceaux et j'ai voulu bâtir une trame imaginaire en gardant les meilleures approches musicales des morceaux, car ils ont été joués de 3 façons et en essayant de converser le tout. Une très bonne intro sur scène pouvait être nulle à l'audio, par exemple, et je voulais que ce soit assez rond, que ce ne soit pas complètement déconcertant, d'autant plus que j'avais besoin de me rassembler à ce moment-là. De plus, elle souhaitait faire plaisir aux gens qui ont besoin de retrouver dans leur salon et en même temps respecter cette douce désobéissance qui la caractérise. Lorsqu'on lui fait remarquer que la suite des titres « Invisible, This Stone is Cold »,« Blonde Wind Blow » et « Digging the Ground » évoquent le cinéma fantastique, la blonde échevelée rappelle que cet univers est toujours proche d'elle, comme c'était le cas avec son personnage de Freddy dans le spectacle tiré de l'album « La Maline » paru en 2000.
Chez nous, il y a un désert. Il y a un désert dedans ma cour. J'aurais voulu une rivière, mais il y a un désert dedans ma cour. J'ai mis le feu à ma fenêtre. J'ai mis la douleur à mes pieds, puis j'ai marché 10 kilomètres juste pour oublier. Je me suis rendu plus loin que prévu, je me suis rendu au bout du chemin. Mais si mon histoire tient la route, je voudrais rentrer chez nous. J'en ai brûlé des lumières rouges, aussi fait ben des détours pour trouver ce qui ressemble du plus près à l'amour. Du plus près à l'amour. Retrouver sur mon cœur comme une fleur, comme un caillou, le poids de mes erreurs qui assèche ma cour. Je voudrais rentrer dans ma maison et boire un peu à tous les jours dans les yeux doux de Marie-Lou. Je voudrais rentrer chez nous. Derrière chez nous, il y a un désert. Il y a un désert dedans ma cour. Derrière chez nous, il y a un désert où je vais planter un peu d'amour.
À Fred Pellerin, rentré chez nous. Et ça nous amène à parler de Fred Pellerin qui sortait cette semaine son nouvel album. On en parle dans la presse du lundi 17 novembre, un texte de Chantal Guy, Fred Pellerin, Les Fils du Temps. Alors, Les Fils du Temps, excusez. Elle raconte qu'elle s'était déjà rencontrée, elle et Fred Pellerin. Alors voici ce qu'elle dit. « Nous nous étions rencontrés il y a exactement 10 ans pour son spectacle Comme une odeur de muscle. Et en dépit de son frêle gabarit, nous l'avions baptisé l'homme fort du conte. Depuis, les succès et les réussites de Fred Pellerin sont innombrables. Mais le gars, lui, n'a pas changé d'un iota. Bien sûr, il n'a pas cessé d'évoluer artistiquement, mais l'authenticité est demeurée intacte. Rien ne semble avoir changé en lui. » Et pourtant, Fred Pellerin est passé du statut de conteur populaire à celui de véritable star au Québec et en France. Même ceux qui avaient en horreur le folklore, le folk et le trad ont fini par se rallier à son talent irrésistible. La preuve en est que la tournée de son spectacle « De peigne et de misère » a affiché complet dès le début. « C'est fou raide », reconnaît-il. « Mais ce que je racontais, ça reste ce que je raconte aujourd'hui et ce que je chantais et ce que je chante aujourd'hui. » Ça n'a pas pris de flash et d'effets spéciaux. Que je joue à la Place des Arts ou au Grand Théâtre à Québec, ça reste ma chaise, ma guitare, mon accordéon. Ça n'a pas été dénaturé et je n'ai jamais eu à faire de compromis. J'en aurais pas fait de toute façon. On en est à 280 représentations. C'est complet partout, des mois à l'avance. Il y a un engouement et une folie. Mais ce n'est pas moi qu'on voit le plus à la télé et dans les journaux. C'est volontaire. On refuse plein d'affaires pour ne pas être surexposé. Parlons-en de ce côté prolifique. Les spectacles, le cinéma, la musique, les livres, son implication à Saint-Élie-de-Caxton et son rôle de père de 3 enfants. Comment fait-il? Cela tient beaucoup au titre de ce nouvel album « Plus tard qu'on pense », qui crée en lui un sentiment d'urgence et qu'on peut lire tant sur le plan personnel que national, Pellerin ayant toujours été associé à l'image de la survivance d'un peuple. Un album auquel ont collaboré l'ami et voisin Jeannot Bournival, à la réalisation et aux arrangements, René-Richard Cyr, Jocelyn et Léon Bigras, David Portelance, Stéphane Faulkner, Manu Trudel et Mélanie Noël, au texte avec la superbe reprise de Le grand cerf-volant de Gilles Vigneault et la traduction d'un succès de Tom Waits. Je ne dis pas qu'il est trop tard, mais il est plus tard qu'on pense. Ça fait plein de craintes et en même temps, ça fouette sur plein d'affaires. Je vois mes enfants qui grandissent. Ma grande fille a 9 ans. Ça veut dire que j'ai 9 ans de plus et éventuellement 9 ans de moins. Quand tu mets le temps dans un enfant, t'as une mesure. Pour lui, tous ses projets sont comme des moulins qui virent tout le temps. Et malgré ça, il sait se donner du lousse. Cet album, ça fait un an et demi qu'il est sur les ronds de poêle. C'est pratiquement un mois et demi par toune. Jeannot et moi, on travaille toujours avec du slack. Des fois, on est en studio pendant 4 heures et on ne tourne... On touche pas à nos guitares. On jase. J'ai trouvé une façon de rentabiliser mon temps de tourner sur la route. L'ordi est toujours ouvert et chez nous, je tire la plug. Alors, Fred Pellerin, son nouvel album, Plus tard qu'on pense, est en vente dès maintenant.
Parler de la pièce Faire l'amour, où Marie-Hélène Chartrand nous en fait le portrait dans le journal 24 heures. Avec Faire l'amour, l'auteur et comédienne Anne-Marie Olivier livre une œuvre lumineuse basée sur de vraies histoires de sexe. Créée au Périscope de Québec, la pièce prend l'affiche à l'Espace Libre de Montréal. On voulait parler de sexualité et on a rapidement constaté que la réalité était plus payante que la fiction pour ce spectacle, explique Anne-Marie Olivier. Ainsi, l'équipe de création a récolté une centaine d'anecdotes à l'aide de questionnaires écrits, de rencontres individuelles et de discussions de groupe, méthode s'étant d'ailleurs révélée la plus efficace. On a conservé les histoires les plus lumineuses, parce qu'on voulait parler d'une sexualité saine, de la sexualité amoureuse, dit-elle. Créée par la compagnie Bienvenue aux Dames, Faire l'amour met en scène l'auteur Anne-Marie Olivier, Maryse Lapierre, Elliot Laprise et Nicolas Franck Vachon. La mise en scène est quant à elle signée par Véronique Côté. Parce que faire l'amour pour vrai, ça irradie dans le corps, comme le soleil les longues nuits d'été, compte parmi les premières phrases dites par Anne-Marie Olivier au début du spectacle. La table est alors mise pour un enchaînement d'histoires, de belles et de moins belles, contées directement au public, un peu à la manière d'une soirée entre amis. La pièce a connu un franc succès avant d'arriver à Montréal. Les réactions sont diverses après le spectacle. Certains sont très émus et d'autres ont envie de vivre fois mille, fait remarquer Anne-Marie. La pièce montre à la fois le caractère universel du thème, mais également à quel point la sexualité est un facteur déterminant dans une vie. « Ça peut déterminer nos vies, nos choix, nos désirs, nos coups de foudre », s'exclame Anne-Marie. Bien que la majorité des histoires soient réjouissantes, Faire l'amour commence tout de même avec le récit d'un mariage forcé et une histoire se terminant par un double meurtre. On commence en faisant un point sur la sexualité de nos grands-parents, puis on va vers ce qu'on a aujourd'hui. Ça nous ramène aussi à toutes les histoires cachées, les histoires troubles, explique-t-elle.
Toujours en théâtre, D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, c'est un classique, que ce soit en littérature, au cinéma et maintenant au théâtre. Alors Jean Siag de La Presse nous en parle dans une édition de son article qui a été publié mercredi 19 novembre. Alors D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, D'Artagnan fait mouche. Alors on compte plus les adaptations du célèbre roman d'Alexandre Dumas, que ce soit sur la scène, la télé ou le cinéma. L'écrivain français a d'ailleurs été le premier à adapter son roman de cap et d'épée au théâtre. Alors quelques années après sa publication dans le quotidien Le Siècle en 1844, alors ça date pas d'aujourd'hui. Alors ces jours-ci, c'est le comédien et metteur en scène Frédéric Bélanger qui se lance dans l'arène, lui qui a adapté avec succès Le Bossu de Paul Féval et Les Aventures de Lagardère il y a 3 ans. Il nous propose ici un spectacle familial rythmé à la perfection avec des scènes de combat assez irrésistibles et des incursions tout à fait bienvenues dans le théâtre. Mais ne vous attendez pas à voir la version longue du roman. Il faut bien le dire, l'intrigue a été réduite à sa plus simple expression et la forme emprunte beaucoup à l'imagerie de la BD. Le metteur en scène s'intéresse essentiellement à la course du jeune D'Artagnan pour récupérer le collier à feret de la reine Anne d'Autriche. Un collier donné par la reine à Lord Buckingham en gage de son amour, mais que le roi Louis XIII lui avait jadis offert et qui lui demande de porter pour un bal à venir une ruse du cardinal Richelieu. Alors D'Artagnan réussira sa mission avec l'aide de ses amis les Trois Mousquetaires, rappelant leur célèbre devise « Un pour tous et tous pour un ». Alors c'est une pièce d'aventure. En fait, c'est toute la dimension politique de l'œuvre qui a été évacuée. Oubliez le long siècle de La Rochelle, les manœuvres de Richelieu pour faire tomber la reine. Oubliez aussi la nuit que D'Artagnan a passée avec Milady, l'emprisonnement de la plus belle des vilaines qui s'enfuit après avoir séduit son joaillier, sa chute et sa décapitation. Il est vrai que, sans ces détails, les intentions des personnages ne sont pas toujours aussi claires qu'on le voudrait. Malgré ça, l'adaptation de Frédéric Bélanger tient la route. Le metteur en scène parvient à donner un souffle épique à son jeune héros et à créer une pièce d'aventure ponctuée d'envolées musicales très entraînantes, même dans une version simplifiée. La distribution est menée tambour battant par Steve Gagnon, qui affiche toute la fougue et la témérité du jeune héros. Dans le rôle de Planchet, le valet de D'Artagnan, Claude Tremblay, provoque des hurlements de rire dans la salle. Il nous offre certains des meilleurs moments comiques de la pièce. Il va même jusqu'à grimper dans les fauteuils pour vérifier s'il y a des gardes du cardinal dans les environs. Un affrontement entre les gardes du cardinal et ceux du roi a également lieu dans les allées du théâtre. On aime ça. Alors, l'adaptation de Frédéric Bélanger, extrêmement divertissante, est une excellente initiation à l'univers littéraire d'Alexandre Dumas, en espérant qu'elle donne aussi le goût aux spectateurs de plonger dans ses romans. Alors, c'est au théâtre Denise Pelletier jusqu'au 12 décembre.
D'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, c'est sans importance. Laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres. On peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève. On peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle. Recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche.
Karim Ouellet, l'amour, c'est un peu sur le thème de la pièce qu'il y avait à l'Espace Libre, mais tu nous parles d'une autre pièce de théâtre.
On reste sur le théâtre, effectivement, avec la pièce Tribu de l'anglaise Nina Ren, produite par Lab 87 à la Licorne, représente l'une des plus belles surprises de la saison théâtrale jusqu'ici. un très beau texte sur les sourds au sens propre comme au figuré. Davantage qu'une œuvre sur la surdité, le texte de Nina Rehn nous parle d'incommunicabilité dans les familles modernes que l'auteur nomme « tribus », celles qui entendent et celles qui ne le veulent pas. Sourd ou pas, l'humain tend à se rassembler et à vivre en groupe, pour ne pas dire en meute, selon les caractéristiques intrinsèques de chacun, estime la dramaturge. Et qui dit meute dit malentendu, conflit et haine. Malgré le sujet, la vie d'une famille de cinq où les parents n'ont jamais cru bon enseigner le langage des signes à Billy, leur fils cadet sourd de naissance, il ne s'agit pas non plus d'une pièce de CLCC, pardon, comme on disait à l'époque où le théâtre social dominait la scène québécoise. Cette famille intello-artistique se déchire constamment quand elle ne déchiquette pas les cums et les blondes de passage. L'être le plus sensible et articulé s'avère Billy, celui qui s'est toujours adapté à tout et à tous, alors que ses parents, son frère et sa sœur préfèrent hypocritement ignorer son handicap. Le jeune homme rencontre Sylvia, une malentendante en voie de devenir sourde, qui changera complètement sa vie. Cet amour permettra à Billy de déployer ses ailes et de quitter le nid familial, non sans peine et sans heurts. Son départ lève le voile sur les travers insidieux de cette famille handicapée émotive. On rit franchement au début de la pièce, on s'émeut par la suite. La mise en scène précise et bien rythmée de Frédéric Blanchette ne doit pas occulter le travail considérable de tous les acteurs, dont les excellents David Lorrain et Clairvy Tiampon, qui ont appris le langage des signes pour donner vie à ce texte très bien écrit, traduit et adapté en québécois. La scénographie d'Hélène Ewing est également à souligner. Cette famille composée de gens brillants n'en est pas moins dysfonctionnelle pour autant. Ses membres crient, se jettent les uns sur les autres parce qu'ils n'entendent rien à l'amour, finalement. Ce n'est pas la surdité qui rend sourd et ce n'est certes pas l'intelligence qui rend moins con. Je rappelle juste que Tribu sera à la Licorne jusqu'au 29 novembre.
Noël approche, moins d'un mois.
J'ai hâte.
Oui.
Un mois.
C'est
ça. Oui, ça avance vite.
Et Jennifer a fait le saut quand j'ai dit la date ce matin.
Le temps passe trop vite, mais j'ai hâte en même temps que Noël arrive.
Eh bien, pour les tout-petits, comme pour les grands qui ont le cœur d'enfant, on a une grande arrivée demain dans le centre-ville, c'est la parade du Père Noël. À la parade du Père Noël, qui est un événement en soi et une tradition aussi. Alors, Joanie Rochette, la fée des étoiles, est une adepte aussi de cette parade. Alors, on en parle dans le journal 24 heures d'aujourd'hui, donc 21 novembre, un texte de Guillaume Picard, Joanie Rochette, fée des étoiles. Joanie Rochette se glisse de nouveau dans la peau de la fée des étoiles à l'occasion du 64e défilé du Père Noël qui a lieu ce samedi à compter de 11 heures sur la rue Sainte-Catherine-Ouest entre Dufort et Saint-Urbain. La jeune femme de 28 ans avait incarné l'allié du célèbre homme à la barbe blanche l'an dernier et avait ainsi redécouvert la magie de Noël. Je n'ai pas d'enfant, mais on dirait que ça m'a ramené en enfance l'an dernier et ça m'a permis de vivre Noël de façon différente, a-t-elle dit. Alors j'ai hâte d'être encore une fois la fée des étoiles, surtout que les jeunes embarquent et ils sont très excités. Pour eux, je suis la fée des étoiles. Joanie Rochette a hâte de croiser Joël Legendre, qui prendra part au défilé de samedi sur son propre char allégorique. L'artiste multidisciplinaire interprétera des chansons tirées de son nouvel album de Noël. Alors, Joanie Rochette a renoncé à la compétition depuis près de 5 ans, mais elle n'a jamais cessé de patiner et elle participe à des spectacles tant au Canada, aux États-Unis, en Europe qu'en Asie. Alors, je rappelle, c'est sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, entre Dufort et Saint-Urbain. Et pour ceux qui ne peuvent pas se rendre demain, eh bien, la parade du Père Noël sera diffusée sur les ondes de TVA et il n'y a pas... ce dimanche dès 17h et en rediffusion le 6 décembre à 17h à TVA ainsi que le 25 décembre à midi sur Yopa. En parlant de temps des fêtes, ben, parfois on a besoin d'idées cadeaux. En fin de semaine, c'est le Salon du livre de Montréal. Alors, plusieurs auteurs connus, moins connus, qui se sont donné rendez-vous au Salon du livre à la place Bonaventure. Peut-être est-ce l'endroit parfait pour aller faire vos emplettes du temps des fêtes. Virginie, excuse-moi, Jennifer.
Ce sera toute l'émission.
Mais oui, ce sera vraiment. C'est parce qu'elle s'appelle Vignerie, son nom de famille.
C'est ça, je sais.
Jennifer.
Oui.
Alors, est-ce que tu as l'intention d'aller au Salon du livre à Montréal?
J'aimerais bien, mais est-ce que tu vas nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait y trouver? Ou...
Bien, entre autres, il y a Patrick Sénécal qui présente une association de bandes dessinées avec Tristan Demers. Il y a Robert Lalonde avec son nouvel...
On peut effectivement y faire de belles découvertes.
Tout à fait, de rencontrer ses auteurs aussi qui seront sur place. Il y a aussi Catherine Pancol qui devrait venir. Oui,
j'avais adoré la trilogie.
Et il y a Michel... Et il y a Michel Tremblay aussi, qui est un peu une des personnalités vedettes de ce salon-ci. Alors, jusqu'à dimanche, vous pouvez vous rendre à la place Bonaventure pour le Salon du livre. On part dans quelques instants pour une pause, mais on vous revient pour une deuxième partie de notre émission. Je suis avec Virginie. non, Jennifer, voyons, là, vraiment.
Ce sera toute l'émission, c'est pas grave. Ben, écoute, pour cette fois-ci, je peux... Bon. Mais à partir de la deuxième pause, c'est Jennifer.
C'est Jennifer.
Allez, c'est parti, à tout à l'heure. À tout de suite, plutôt.
Écoutez Kiosque Magazine.
Et oui, donc cette deuxième partie, je suis en compagnie de Jennifer.
Oui. Excellent.
Eh mon Dieu. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est que j'avais des petits problèmes de me rappeler les noms. Et ça, c'est très moi, ça.
Et là, il a une petite pancarte avec mon nom, donc s'il se trompe, je n'y comprends plus rien.
Et on poursuit donc en cinéma. Alors, dans le journal Voir de l'édition du jeudi 20 novembre, un texte de Philippe Couture, Sauver Paris. Savais-tu, Jennifer, que Paris a failli y passer?
Et oui, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je suppose que du coup, tu vas nous parler du film Diplomatie.
Diplomatie, exactement. Alors, Sauver Paris. La nuit du 24 au 25 août 1944, Paris a failli être anéanti sous les ordres d'Hitler. Imaginant une discussion entre un général allemand et un rusé consul suédois, l'auteur de théâtre Cyril Gilly et le réalisateur Volker Schlöndorff racontent la désobéissance qui a sauvé Paris. Dans la réalité historique, il n'y a pas eu de rencontre entre Nolden et von Schowitz qui aurait duré toute une nuit et fait changer le cours de l'histoire. Mais la fiction a ceci de génial qu'elle permet de raconter le réel en prenant des libertés qui rendent l'histoire plus éclairante, plus fertile en enseignement. Volker Schlöndorff en sait quelque chose. Sur 30 films réalisés en carrière, une quinzaine racontent la Deuxième Guerre mondiale, en tordant un peu la documentation historique pour offrir un regard condensé sur les événements. « Je m'inscris, dit-il, dans une tradition de cinéma qui se permet un fantasme historique à partir de recherches journalistiques et documentaires. Car raconter la vérité, c'est une utopie. Mes personnages sont imaginaires, mais je prétends qu'ils sont plus vrais que nature. Je crois que ce général avait besoin d'une sage-femme pour accoucher de la décision de désobéir à Hitler, et le consul Nordlin joue ce rôle. il avait besoin d'un interlocuteur, comme dans les dialogues de Socrate, pour trouver la vérité. Très proche de la pièce de théâtre de Cyril Gelly, qui a inspiré ce film, le long-métrage de Schlundhoff oppose les deux hommes dans un redoutable duel de mots. Même si le ton monte rarement chez ces deux hommes distingués, ils sont capables de manier le verbe, la philosophie et la psychologie en toute élégance, comme des armes de haute sophistication. J'aimais la théâtralité très assumée de ce texte, dit-il. Les conventions très classiques, y compris la porte cachée par laquelle entre le consul ou le miroir, s'entint, ainsi que l'unité de temps et de lieu. À travers ce personnage de général en pleine crise de conscience, le réalisateur franco-allemand porte un regard critique sur le nationalisme. Je pense avoir développé une compréhension du comportement militantisme du général, mais je pense tout de même que, malgré toutes les traditions militaires, le libre arbitre et le sentiment de responsabilité individuelle devraient primer. Je crois que la désobéissance est l'acte moral qu'il faut accomplir dans ces situations, même si on doit, pour cela, laisser périr sa famille. À ce sujet, je suis assez radical, je sais. Le titre l'indique. Ce film fait l'éloge de la diplomatie et se demande pourquoi elle n'a pas encore réussi à venir à bout des guerres. Voilà une réflexion qui a bercé toute la vie et toute l'œuvre de Schlundhoff, né en Allemagne en 1939, alors que débutait la guerre. Entre Israël et la Palestine, pourquoi n'arrive-t-on pas à résoudre la situation de manière diplomatique? De Gaulle l'a pourtant réussi avec l'Algérie. Je trouve que désormais nous manquons de diplomates, nous manquons de gens qui croient fermement que les mots et les arguments peuvent avoir un poids. J'ai voulu faire un film sur l'importance de la civilisation, sur la barbarie, sur l'importance du langage, sur les armes, sur l'importance de l'éducation, sur l'émotion. C'est un film qui fait l'éloge de la raison sur la passion. En filigrane, se déploie aussi l'amour immodéré de Paris, le désir de valoriser ce joyau architectural et l'idée que des trésors culturels d'une nation doivent catégoriquement être sauvés. À ce sujet, Volker Schlundhoff se fait volontiers lyrique. « Je suis venu à Paris la première fois en 1955, j'avais 16 ans, pour apprendre un peu le français, et je suis resté presque 10 ans. J'en connais tous les recoins, et c'est là que j'y ai fait mon apprentissage du cinéma. Je vibre pour cette ville. » Alors, Diplomatie est en salle dès aujourd'hui. On poursuit sur une note plus musicale. C'est Manon Brunet qui propose une expérience gospel. Alors, Linda Corbeau, dans le Nouvelliste, nous en parle dans l'édition du 13 novembre 2014. La chanteuse Manon Brunet sera de retour dans sa ville d'origine en décembre à trois occasions, le temps de proposer deux ateliers d'initiation au chant gospel, les jeudis 4 et 11 décembre, et un spectacle dans ce même registre, le dimanche 14 décembre à 14h30. En fait, les trois rendez-vous sont liés puisque la chanteuse offrira aux élèves de ses ateliers de monter sur scène et de prendre part au spectacle qu'elle livrera quelques jours plus tard sur les planches de la salle Anaïs Allard-Rousseau de la Maison de la culture de Trois-Rivières. Ils se joindront alors à la chanteuse, ses quatre musiciens et sa dizaine de choristes, le temps de quatre chansons à cette occasion. Manon Brunet veut d'ailleurs donner pleine mesure à sa musique gospel, une expérience qu'elle considère rassembleuse et libératrice. Voilà maintenant une quinzaine d'années que la chanteuse évolue comme coach vocal et 7 ans qu'elle offre des ateliers de gospel en partageant avec ses élèves une technique de chant qui lui a permis elle-même de récupérer sa voix. « À force de chanter du blues et des trucs d'hommes dans les bars et dans les festivals, je m'étais cassé la voix », dit-elle, expliquant que cette technique lui provient d'Amanda Ambrose, une chanteuse noire américaine. Dans ses ateliers, elle prend plaisir à propager ses notions de chant. C'est une technique très ludique. Rapidement, les gens peuvent chanter pleine voix et ils en sont souvent très surpris, sourit-elle. C'est fascinant de voir comment la passion, ça marche. En plus, la technique est basée sur le sourire. Quant au répertoire gospel, elle estime qu'il est encore plus près d'elle que le blues, qu'on lui associe spontanément. En fait, le gospel la chavire. « Tu m'assois dans une église de noirs et je ne fais que pleurer, même pas capable de chanter, note-t-elle en riant. Personnellement, je ne suis pas dans le religieux, mais j'aime le côté communautaire de la religion et quand je les entends chanter, ça me fait capoter. C'est comme si c'était déjà dans mon âme. C'est une musique qui permet d'exprimer ses émotions. Et je suis une chanteuse comme ça aussi. Je crois que c'est ce qui me touche le plus, de voir comment ils s'expriment, qu'ils ne sont pas gênés de le faire. Manon Brunet n'en est pas à sa première en termes de formation gospel, puisqu'elle dispense déjà ce type d'atelier auprès de jeunes dans les écoles, mais aussi souvent auprès d'adultes. La chanteuse a aussi rassemblé des gens de plus de 55 ans dans un centre d'aide à proximité de chez elle à Montréal et a même créé un mini-album avec eux. À Trois-Rivières, ces ateliers d'initiation seront dispensés au Collège La Flèche les 4 et 11 décembre entre 19h et 21h et seront ouverts à tous, à tous les groupes d'âge. Je souhaite avoir autant d'adultes que les jeunes adolescents du séminaire ou du CMI, souligne-t-elle, rappelant que c'est précisément au Collège Marie de l'Incarnation qu'elle a fait ses premiers pas sur scène au sein de la comédie musicale de l'école. Pour le grand public, il est à noter que le spectacle du 14 décembre sera d'une durée d'environ 1h15, sans entracte. Sur les 16 chansons du spectacle de Manon Brunet, ses nouveaux élèves trifluviens entonneront sur scène deux classiques « Happy » et « I Believe I Can Fly » et deux compositions de Manon Brunet, « Nobody Can Take My Soul » et « T'as qu'à me suivre ». Outre les ateliers, ils se retrouveront aussi pour un soir de pratique, autant de moments qu'elles souhaitent festifs. Il est tellement rare qu'on ait l'occasion de s'énerver et de faire les fous. Mon trip, c'est de transmettre cette énergie-là. Alors, les billets du spectacle sont déjà en vente à la billetterie de la salle J. Anthony Thompson. Et puis, vous pouvez toujours aller sur son site à Manon Brunet pour vous inscrire si jamais vous êtes intéressé à participer aux ateliers. Alors, le 14 décembre à 14h30 à la salle Anaïs Allard Rousseau de la Maison de la Culture de Trois-Rivières.
Gosiam nikulule kumuntu wenkohliso ongenakulunga nonobumnyama uhlezinga kwesobunene sikankulunkulu nahlulele Gosiam nikulule kumuntu wenkohliso ongenakulunga nonobumnyama uhlezinga kwesokunene sikankulunkulu ngoba wena uyisiphephelo sami lapho ukuphila kwangukhona Sikankulunkulu ngoba wena uyisiphephelo sami lapho ukuphila kwangukhona uhlezinga kwesokunene sikankulunkulu thuma ukukhanya wakho Nkosi kungihole uhlezinga kwesokunene sikankulunkulu ngoba wena uyisiphephelo sami lapho ukuphila kwangukhona uhlezinga kwesokunene sikankulunkulu ngoba kwangukhona uhlezinga kwesokunene sikankulunkulu ngoba wena uyisiphephelo sami lapho ukuphila kwangukhona uhlezinga kwesokunene sikankulunkulu.
Eh bien, nous allons maintenant parler d'art, et justement l'art s'allie à la science dans les deux nouvelles productions du planétarium Vertige et Tempo, afin d'approfondir un sujet universel, le temps. À la fois artistique, philosophique et scientifique, Vertige explose les différentes théories relatives au temps. D'une durée de 20 minutes, la production créée par le spécialiste en vidéographie Jimmy Lakatos et l'expert en art numérique Alexandre Burton en met plein la vue tout en étant éducative. On était conscient qu'il fallait répondre aux attentes d'un public de 7 à 77 ans, donc pour nous c'était impératif d'être spectaculaire. L'enfant de 7 ans portera sûrement plus attention à l'aspect grandiose, alors que l'adulte prêtera plus attention au sens. Vertige commence en passant en revue l'évolution des techniques de mesure du temps, puis expose plusieurs théories. Certains penseurs sont cités, comme Einstein, pour qui le temps n'est qu'une illusion. Et des faits sont exposés. À la vitesse de la lumière, le temps ralentirait et à la frontière des trous noirs, le temps s'arrêterait carrément. Complémentaire à Vertige, Tempo est une production plus didactique qui intéressera, à mon avis, un public plus âgé. Créé par l'astronome Sébastien Gauthier et le cinéaste Philippe Belogue, Tempo transporte les spectateurs en plein cœur de la place d'armes de Montréal où il y aurait eu une panne d'électricité générale. Au centre de ce théâtre de la Voie lactée, un animateur explique en direct comment nos ancêtres calculaient le temps grâce aux étoiles. Le rapport de l'animateur avec le ciel était très important. Ça nous ramène à cette réalité qu'ont vécu nos ancêtres lorsqu'il n'y avait pas d'électricité ni de télévision et qu'on savait que le ciel, pour se raconter des histoires, À l'heure où le temps est de plus en plus numérique, Tempo met en valeur la mesure naturelle du temps.
C'est les 13e sommets du cinéma d'animation. Alors, Éric Moreau, dans Le Soleil, nous en parle, donc dans l'édition du 11 novembre. Alors, sortir des sentiers battus. La crédibilité des sommets du cinéma d'animation ne cesse de croître. Pour cette 13e présentation du 27 au 30 novembre, ses responsables ont reçu 702 propositions, le double de l'an dernier. Ils en ont conservé 108 pour les volets compétitifs et les panoramas. Les cinéphiles en auront plein les yeux et les oreilles avec, en plus des rétrospectives, des hommages, des ateliers pour les enfants. Mais surtout avec des propositions qui sortent des sentiers battus. Alors, 13, ça porte chance, lance avec un brin d'ironie Marco de Blois, le directeur artistique des sommets depuis le début. Plus sérieusement, il ajoute que les films reçus pour les sections compétitives sont la preuve de l'importance des sommets sur la scène internationale. 3 sélections regroupent les films en compétition pour le Grand Prix, celui du jury, celui du public. Parmi ceux-ci, on note la présence de Mamoulton et moi, de la réalisatrice montréalaise Toril Cove, présélectionnée en vue de l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation, et Hippopotami, du Polonais Piotr Dumala, qui a causé une controverse lors de sa présentation au Festival d'Annecy, le plus important rendez-vous de l'animation au monde. On est loin de Disney ou de Pixar au sommet. Il y a, par exemple, une rétrospective consacrée à Robert Morgan, un maître de l'animation image par image. C'est l'un des plus grands réalisateurs de marionnettes au monde en ce moment, s'enflamme Marco de Blois. Mais il se spécialise dans le cinéma d'horreur, très ludique, ajoute M. de Blois. L'anglais sera présent pour échanger avec le public le 29 novembre à 21h au CLAP. Lors de la soirée d'ouverture, les cinéphiles pourront découvrir Asphalt Watches de Shane Hetman et Seth Shriver, qui seront eux aussi présents à Québec. Le long-métrage a gagné le prix du meilleur premier film canadien au Festival de Toronto, TILF, en 2013, basé sur leur voyage sur le pouce. C'est du South Park sur l'acide, ça promet. Alors sinon, il y a aussi des projections, des propositions audacieuses, plus festives. Celle-là, une projection performance sur le thème de l'animation avec une projectionniste manipulateur, John Blouin, et des musiciens improvisateurs. L'activité gratuite se déroulera le 28 novembre dès 20h30 au Musée de la Civilisation. Alors, il y a aussi deux ateliers pour les 5 à 8 ans qui prennent place au même endroit, donc les 29 et 30 à 10h30, donc le matin. Les sommets se déroulent du 27 au 30 novembre à Québec et du 3 au 7 décembre à Montréal. Dans la capitale, les projections ont lieu au Musée de la Civilisation et au CLAP. Alors, si vous voulez un passeport, il est possible de vous procurer un billet pour toutes les projections ou sinon des billets qui sont en vente individuelle. Vous pouvez aller sur le site des sommets du cinéma d'animation.
That's the way it should be. Wow, yeah. We're one of a kind, like dip to dip to dip to wop the doo doo. Our names are signed. A boogie 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 shoo doo wop shba. Chang 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 and a chang shba. We'll always be like one.
We go together. Moi et Jennifer, we go together aussi, hein?
Effectivement.
Alors, c'est tiré de du film Grease. Et juste pour rire, annonçait cette semaine que Grease sera la comédie musicale présentée cet été au Théâtre Saint-Denis dès le 17 juin. Alors, vous connaissez sûrement les chansons, sûrement vous avez fredonné celle-ci. Alors, c'est un grand succès sur Broadway. Il y a eu bien sûr le film avec Olivia Newton-John et John Travolta, alors un film et un succès sur scène. Alors, si vous voulez voir la pièce musicale, alors, c'est une mise en scène de Andrew Shever et d'après les conseils judicieux artistiques de Denise Filiatro. Alors, ça, pour avoir des billets, vous pouvez appeler ou aller sur le site de Juste pour rire. J'enchaîne aussi avec quoi faire cette semaine, des propositions ici en région, alors de Stéphanie Morin dans la presse du jeudi 20 novembre. Alors, trois idées d'activités à faire en famille dans différentes régions du Québec. Tout d'abord, à Laval, regardez les films de Lego. Alors, samedi et dimanche, le Cosmodôme de Laval présente Cinébrique, un tout premier festival canadien de films d'animation en briques Lego. Le public est invité à découvrir une sélection de films et de vidéos provenant du monde entier, de nombreux modèles et de créations originales faits à partir de millions de petites briques multicolores par des fans adultes du Québec et d'ailleurs. Alors, il y en a même une exposition. Vous pouvez voir donc des châteaux entourés de chevaliers, des bases spatiales et des réseaux de trains traversant des villes entières, alors au Cosmodôme. À Montréal, bien, vous pouvez fêter la Sainte-Catherine. Alors, c'est ce week-end à la Maison Saint-Gabriel qu'on souligne la fête de la Sainte-Catherine avec plusieurs activités. Samedi de 19h30 à 21h30, les 13 ans et plus sont conviés à une veillée festive avec conteurs, violonneux et chansons à répondre. Réservation obligatoire et c'est 15$ par personne. C'est le dimanche dès 13h. Les visiteurs mettent la main à la pâte pour étirer la traditionnelle tire à la mélasse et la couper en petits bonbons. Aussi, il y a des contes, de l'animation avec des personnages costumés, musique et visite guidée de la maison toutes les heures. Alors, les Catherinettes, si vous êtes une femme célibataire de plus de 25 ans, vous êtes invitée à venir coiffée d'un chapeau de Sainte-Catherine, alors à la Maison Saint-Gabriel. Et en Montérégie, vous pouvez découvrir la Chine ancienne. À compter d'aujourd'hui, le musée d'archéologie de Roussillon présente une toute nouvelle exposition temporaire « Art de la Chine, aperçu d'une civilisation ancienne », à voir différents objets faits de bronze, de céramique ou de jade, dont certains datent de 1600 avant Jésus-Christ. Des activités spéciales sont aussi offertes les samedis et dimanches pour les 5 à 12 ans, simulation de fouilles archéologiques ce week-end et atelier de calligraphie chinoise le week-end suivant. Donc l'occasion est belle pour découvrir ce petit musée de la prairie qui présente le patrimoine archéologique de la région. Le musée est ouvert du mercredi au dimanche. Alors, nous sommes rendus, Jennifer et moi, au moment de vos brèves. Je vais débuter tout d'abord à vous parler du festival Images et Nations, festival cinéma lesbienne, gay, bi et trans de Montréal. C'était l'événement d'ouverture hier soir par un film, The Way He Looks, un film qui a eu un énorme succès aux dernières Berlinales en 2014, un film de Daniel Ribeiro, qui vient du Brésil, un film sur l'adolescence, alors avec un jeune non-voyant qui tombe en amour et tout son entourage, alors un peu sa vie, la surprotection des parents et de son... On parle souvent d'intimidation dans les écoles, alors il y a un peu aussi, on traite de ce sujet-là. Alors, bien sûr, vous l'avez compris aussi, puis le sujet du festival, il tombe en amour. Mais je vous parle aussi du Quima Québec qui a lieu ce lundi à 19h dans l'ancienne ONF sur Saint-Denis, dans le pavillon Judith Jasmin de l'UQAM. Si vous voulez voir des courts-métrages faits par des réalisateurs d'ici, donc je vous invite à cette soirée.
Et puis un petit peu d'humour avec Dominique et Martin. Le quatrième spectacle du duo comique Dominique et Martin prend justement l'affiche ce soir et la nouvelle mise en scène signée Guy Jodoin honore la complicité des deux humoristes. Ainsi, la paire nous promet des numéros rythmés, des échanges pimentés et des blagues cocasses. Martin Cloutier et Dominique Silon sont donc toujours réunis par le lien sacré de deux frères qui sont encore ensemble depuis 20 ans. Donc ça débute ce soir à 20h au Théâtre des Jardins à Salle Grimaldi.
Alors, Bianco su Bianco, un spectacle de cirque, duo, clown, théâtre, poésie, bien c'est un peu tout ça, Bianco sur Bianco. C'est une création de l'Italien Daniel Finzi-Pasca, à laquelle le contexte intime de la 5e salle de la Place des Arts, où présenter le spectacle jusqu'au 29 novembre, c'est à merveille. Donc, un duo d'interprètes forme un impressionnant duo qui jongle avec des chapeaux, des corps d'ampoules et féeriques et un texte, même si on perd quelques bouts à cause du fort accent, comporte de très jolies trouvailles.
Et puis un petit peu de cinéma, dans le cadre des rencontres internationales du documentaire de Montréal, le film sur la piste des DJ répond à la question au phénomène soudain de la popularité des DJ. Le documentaire illustre 6 portraits de platinistes montréalais, soit Kid Koala, Attrac, Champion, Mistress, Barbara, Cobal et Poirier. On y découvre les secrets du métier, le savoir-faire, la vie nocturne, les conditions de travail et le quotidien éclaté. C'est diffusé demain à 15h15 au cinéma Excentris.
Alors, tous les chemins mènent au Rhum, c'est ce qu'on dit. Donc, si vous voulez voir le collectif Gypsy Cumbia Orchestra, eh bien, c'est ce soir à 21h au Club Soda, si vous voulez vivre une musique festive.
Et puis, un petit peu de théâtre avec Ali, un jeune Irakien ornithologue invité à une conférence sur l'élevage des pigeons. Cependant, durant son discours, il est envahi par les souvenirs de son meilleur ami Samir, mort au combat, et par le climat étouffant de l'occupation de l'armée américaine dans son pays. La pièce raconte donc l'amitié de deux adolescents obligés de se plier à la guerre des grands, mais qui trouvent réconfort l'un auprès de l'autre. La vision critique de conflit du monde de l'auteur et dramaturge américaine Noémie Wallace est transmise à travers Un monde qui s'efface. Ça débute ce soir à 20h à la Maison de la Culture Frontenac.
Et je rappelle que Opus est présenté à la Tohu jusqu'à mercredi. Eh bien, c'est ainsi que se conclut cette émission de Kiosque Magazine. Je remercie Jennifer.
Merci, Miguel.
Oui. Je remercie aussi Rémi Hermoso qui était à la régie console et à la musique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous et restez sur les ondes de Canal M.
Merci, bonne fin de semaine à tous.